Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir accueilli pour vous apporter ce matin la parole, cette parole que nous aimons, cette parole de Dieu qui nous fait grandir et qui nous apprend toujours à mieux connaître le Seigneur et à mieux le suivre. Alors j'ai été interpellé par cette petite méditation que Annie nous a apportée, le sujet de la petite foi et les grands doutes, parce que en effet, j'ai moi-même expérimenté cette semaine, le fait d'avoir cette petite foi et ces grands doutes. En effet, j'ai emmené mercredi sur le massif du Donon, je ne sais pas si vous connaissez le massif du Donon, au-dessus de Abrechevillers, Sarrebourg, en dessous de Schirmeck, quelques jeunes faire du ski de fond l'après-midi. Alors on s'est retrouvé sur ce massif-là et sur des routes, sur une route forestière que j'ai empruntée. Et puis donc, voilà, quand on avance sur cette route forestière jusqu'à un certain point, et à ce point-là, je m'arrête, il y a une stèle, je regarde un plan qui était là, affiché, et je me dis, est-ce que j'aurai le temps de retourner au véhicule ? Et je regarde, je dis, ah, mais c'est quand même bête de faire un aller-retour, hein. Ce serait bien de faire la boucle là, que je voyais une petite boucle à faire. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'y lance, bon j'avais 4 jeunes, je m'y lance ou je m'y lance pas. Et puis au final, je me suis dit, allez, j'y vais, je fais cette boucle là. Alors les jeunes avaient déjà des difficultés pour faire du ski, ils n'en avaient jamais fait. Et ils râlaient déjà un peu, je dis, allez, on y va quand même, vous allez voir, c'est super, il y a des descentes, vous allez vous amuser. Et puis au final, j'ai emprunté cette boucle. Et puis je me suis rendu compte que je partais complètement à l'opposé du Donon, quoi, du véhicule qui était garé. Et donc, déjà dans mes pensées, tournait pas mal de choses. Je me disais, punaise, là c'est pas bon parce que là je suis en train de m'éloigner. On va jamais revenir avant la nuit. Il fait nuit assez de bonne heure, il fait nuit à 5 heures. Et je me suis dit, là, le collègue qui m'attend, hein, j'étais avec un collègue qui était avec un autre jeune, il va déclencher le plan hors sec, il va appeler les gendarmes, les hélicoptères, et là je suis mal, quoi, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça, surtout pas faire ça. Et donc je prends la décision de revenir sur le chemin que j'avais emprunté, hein, sur le chemin de l'allée, et en même temps, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, fais que j'arrive avant la nuit, parce que là ça va pas, fais que j'arrive avant la nuit. Et dans cette pensée là il y avait aussi cette autre pensée, hein, de ce doute, de ces grands doutes qui me rappelaient que de toute façon j'arriverai pas avant la nuit et que de toute façon probablement que j'aurai le droit à ce que les gendarmes me recherchent et que ça soit diffusé dans toute la Moselle. Et voilà, j'ai dit, on y va comme ça, et bon, j'ai fait cette prière, hein. J'ai dit, Seigneur, je voudrais vraiment arriver avant la nuit, je voudrais que tout se termine bien. Et puis là, on continue à marcher, les enfants qui commençaient un peu à vraiment râler, à pleurer aussi, ils ont déchaussé leur ski, et puis ils sont partis à pied, ils me suivaient tant bien que mal, et à un moment donné, sur le chemin, une voiture qui vient à notre rencontre. Alors j'ai arrêté cette voiture, et puis c'était deux jeunes qui étaient là, par hasard, qui se baladaient dans ce massif perdu du Donon, et je leur ai dit, écoutez, voilà, je suis un peu perdu, alors j'aimerais bien que vous m'aidiez. Et donc j'ai pu emprunter un portable, parce que je suis parti sans montre, sans portable, un peu à l'aventure. Et donc ils m'ont prêté leur portable, et puis là j'ai pu appeler le collègue en lui disant, je vais être en retard, ne t'affole pas, je vais certainement revenir dans la nuit, mais tu t'inquiètes pas. Et puis ces jeunes-là, je leur ai demandé s'ils pouvaient revenir et aller justement au véhicule pour dire à ce collègue de faire le chemin sur la route forestière avec son véhicule, hein, avec notre véhicule, pour nous chercher. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il m'a rencontré, hein, il m'a cherché, ce collègue, avec ses 4 jeunes, avant la nuit. Et le Seigneur avait répondu à ma prière. Vous voyez ? on expérimente chaque semaine, je dirais, la petite foi, mais on est envahi, je dirais, de grands doutes, mais malgré tout, quelque part, la bonté du Seigneur, elle est présente, elle est là, et la foi, eh bien, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. C'est quelque chose qu'on peut vraiment expérimenter chaque jour par ces petites expériences dans nos vies. Et j'ai remercié le Seigneur parce que j'étais vraiment pas très tranquille et très inquiet de la suite de mon aventure. Et le Seigneur a été bon dans ma petite foi. Le Seigneur a été bon dans mes doutes. Voilà. Souligner et imager, je veux dire, ce que Annie nous a apporté en rapport avec la petite foi et les grands doutes que nous pouvons vivre chaque jour. Mais le Seigneur est là et il ne nous abandonne pas, le Seigneur ne nous délaisse pas. Voilà. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, voilà, nous sommes devant toi. Nous voulons vraiment être à ton écoute et te prions pour que, Seigneur, nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions nous affermir et que nous puissions davantage, Seigneur, compter sur toi, te faire confiance et nous attendre à toi. Béni sois-tu. Amen. J'aimerais lire avec vous dans Actes au chapitre 4. Merci. Ouais, c'est super. Au chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Voilà, donc c'est les débuts de l'Église. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils de consolation », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà le profil de cette église après la Pentecôte, peu de temps après la Pentecôte, une église qui est unie, une église qui vit vraiment la communauté de bien, hein. Une église qui rend un témoignage puissant, un témoignage efficace, et qui, ce témoignage qui se voit à travers des miracles, à travers une force dans l'évangélisation, une force dans la parole qui est donnée. Une église aussi qui se préoccupe des pauvres. Une église, et on le lit, hein, une église qui est aux antipodes de notre matérialisme à nous. Une église qui est aux antipodes de notre individualisme. Et c'est dans cette église-là que pour la première fois, eh bien, est évoqué le nom de Barnabas. Barnabas, c'est ce surnom donné par les apôtres et qui signifie, nous l'avons lu, « fils d'exhortation ». Dans d'autres traductions, il signifie aussi « celui qui a l'habitude d'encourager », « celui qui réconforte », « celui qui console », celui qui est vraiment à côté des autres et qui se penche vers les autres. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que bien, nous ne vivons certainement pas cette église de acte 4, hein, quoique nous y aspirons, quoique nous désirons ressembler à cette église, quoique cette église, elle est pour nous, entre guillemets, exemplaire. C'est vrai que peut-être que l'esprit du monde, cet esprit matérialisme, cet esprit individualisme, vraiment tendance, je dirais, à pénétrer dans nos églises et nous sommes aussi pris dans notre société, dans notre culture. Et c'est pour nous difficile de se détacher de tout ce qui nous entoure. Et peut-être que c'est difficile aussi, par moments, de vivre l'Église unie, de vivre une Église qui partage ses biens, de vivre une Église communautaire. Mais en tous les cas, on est dans l'Église. Et on est dans l'Église locale. Et ce que ce texte nous apporte, c'est que si cette Église-là, elle date d'il y a 2000 ans, si l'Église aujourd'hui a bien changé et qu'elle a évolué certainement, hein, c'est sûr même que cette Église a pris d'autres aspects, eh bien, nous pouvons être des Barnabas, frères et sœurs, tout comme ce Barnabas dans Acte 4, qui encourageons et qui construisons l'Église locale, là où nous sommes. Quelle que soit l'Église dans laquelle nous sommes, eh bien, nous pouvons devenir ces Barnabas qui est consolant, ces Barnabas qui réconfortons, ces Barnabas qui encourageons. Voilà ce que je voudrais vous apporter à travers trois événements dans la vie de Barnabas. Le premier événement, eh bien, nous l'avons lu au verset 37 du chapitre 4. Barnabas, eh bien, il possédait un champ. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vend ce champ, il apporte l'argent, le dépose au pied des apôtres. Voilà une façon pour Barnabas de construire l'Église, d'encourager l'Église. C'est-à-dire en s'offrant lui-même, en offrant ses dons que Dieu lui a donnés, en offrant ses compétences qu'il a acquises. Ce Barnabas, il encourage l'Église parce qu'il contribue aussi financièrement pour l'Église. Ce Barnabas encourage l'Église parce qu'il offre de son temps libre. Alors, est-ce que nous qui sommes présents, nous sommes à l'exemple de Barnabas? Est-ce que nous avons cette volonté d'encourager l'Église, d'encourager nos frères et nos sœurs et de construire l'Église? Ailleurs, dans Actes au chapitre 9, disons un autre épisode de la vie de Barnabas, hein, c'est une vie qu'il a menée et qui était très riche, une vie qui était consacrée, c'était un homme de foi, un homme qui a vraiment fait beaucoup de choses et qui était aussi le collaborateur de Paul, en tous les cas. Au verset 20, chapitre 9, verset 20 à 27, nous lisons « Saul resta quelques jours avec les disciples, hein, qui étaient à Damas. » Donc Saul qui venait de se convertir sur le chemin de Damas. « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors voilà l'histoire de Paul. Cette histoire où Paul se convertit et comme il était un grand persécuteur des chrétiens, eh bien personne ne l'accueille. Hein. Personne ne fait confiance à Paul. Personne ne croit son histoire. Personne ? Non. Barnabas. Barnabas qui, lui, accueille Paul. Barnabas qui encourage l'Église en acceptant Paul, en l'accueillant, en l'écoutant, en l'encourageant et en collaborant aussi plus tard avec lui. Oui, frères et sœurs, eh bien, ce Barnabas-là, il accepte les gens comme ils sont, malgré leur apparence, malgré leur caractère, malgré leur histoire, malgré leur passé. Ceux que les uns ou les autres n'accueillent pas, Barnabas les accueille. Celui que les chrétiens ne veulent pas écouter, Barnabas écoute. Celui que les chrétiens ne veulent pas encourager, c'est-à-dire Paul, eh bien Barnabas encourage. Et celui à qui on ne fait pas confiance, Barnabas fait confiance. Alors frères et sœurs, sommes-nous ce Barnabas qui accueille, qui encourageons, qui acceptons, qui vraiment écoutons et faisons confiance à ceux qui sont autour de nous, à ceux que nous côtoyons dimanche après dimanche ou bien lors des réunions des églises, de notre église. Un autre événement dans la vie de Barnabas, c'est dans Actes au chapitre 11, versets 19 à 23. Voilà, il y a eu une persécution, hein, et puis les chrétiens sont obligés de partir dans tout l'Empire romain, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et lorsqu'il s'enfuit, à cause de cette persécution, nous l'avons lu, eh bien, des églises naissent, les chrétiens fondent des églises. Et qu'est-ce que fait l'église de Jérusalem ? Eh bien, l'église de Jérusalem envoie Barnabas pour voir comment ça se passe à Antioche. Quels sont ces chrétiens ? Qui sont ces chrétiens ? Et qu'est-ce qu'il voit, Barnabas ? Il voit la grâce de Dieu et il se réjouit. Barnabas voit la grâce de Dieu et se réjouit. Mais il voit aussi une église composée de juifs et de non-juifs. Certainement qu'il se pose la question, qui va s'occuper de cette jeune église qui vient de naître, qui vient de démarrer ? Qui va exhorter cette église ? Qui va l'encourager ? Qui va l'entourer ? Qui va aussi l'enseigner ? Alors, Barnabas relève le défi. Barnabas répond à l'appel de Dieu. Et il va faire face à cette église, il va discerner l'œuvre du Seigneur et les besoins de cette église. Mais Barnabas va aussi collaborer avec Paul en partageant son ministère, en mettant Paul aussi à ses côtés et en lui passant le relais. Alors voilà un peu cette attitude, ce caractère de Barnabas. Barnabas qui est cet homme qui encourage, qui est cet homme qui construit l'Église, qui est cet homme qui accueille, qui relève les défis et qui n'a pas peur de retrousser ses manches pour travailler dans le service, au service du Seigneur, dans le ministère qui lui est confié. Alors, c'est vrai, nous avons parlé de cet homme qui encourage, et ailleurs dans les épîtres, il y a aussi des versets qui nous rappellent que nous sommes appelés en tant que frères et sœurs à nous encourager les uns les autres, à nous exhorter. Je lirai deux versets encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 9 à 11, par rapport à l'encouragement. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Frères et sœurs, c'est vrai, nous possédons ce si grand salut. Nous connaissons l'amour de Dieu. Nous possédons aussi cette belle espérance de la vie éternelle. Et tout cela nous amène à nous encourager les uns les autres dans nos parcours de vie, dans notre vie spirituelle, dans notre relation les uns avec les autres. Tout comme Barnabas l'a fait avec l'Église d'Antioche, avec Paul, ou bien avec ceux qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. Nous vivons les uns avec les autres, nous nous côtoyons et nous sommes appelés, non pas seulement à nous enseigner, mais nous sommes appelés aussi à nous exhorter, à nous encourager. Et lorsqu'on est encouragé, eh bien cela nous fait du bien. Lorsqu'on est exhorté, ça touche notre cœur et ça nous donne envie de continuer à vivre pour le Seigneur, à marcher avec lui, à l'aimer et aussi à aimer notre prochain. Et puis un dernier verset que j'ai relevé dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. Le péché est là, il est présent. Il se tapit à la porte de nos cœurs et puis Il attend que nous cédions. Et lorsque nous nous encourageons les uns les autres, lorsque nous nous exhortons, eh bien cela nous aide aussi à résister au péché, à la séduction du péché. Cela nous aide aussi en période de difficulté que nous pourrions vivre ou rencontrer. Et cela nous aide vraiment à ne pas abandonner notre Seigneur. Cette exhortation, frères et sœurs, s'adresse à tous les frères d'aujourd'hui. Et tout aussi longtemps que nous sommes en vie et que Dieu nous offre sa grâce. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin par rapport à ce passage de Actes et puis Barnabas, qui est cet homme qui encourage, qui est cet homme qui réconforte. Et je crois, pour conclure, que cela devrait être, et je l'espère que ça l'est, notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, s'encourager les uns les autres, ça nous aide à nous réjouir les uns les autres, à être reconnaissants, à faire la volonté de Dieu. Alors il y a une importance que Dieu nous laisse dans sa parole pour que nous soyons encouragés, pour que nous encouragions les autres, notre frère, notre sœur. Parce que Dieu est celui qui nous encourage. Dieu est celui qui désire nous voir encourager les autres. Et puis j'aimerais terminer en disant Eh bien que être encouragé, être exhorté, c'est être considéré, c'est être aimé par mon frère. Et puis, eh bien encourager, exhorter mon frère ou ma sœur, c'est considérer l'autre, c'est considérer, c'est le considérer en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain aussi. C'est aimer mon frère ou ma sœur en Christ. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et je souhaite vraiment que le Seigneur puisse vous permettre, durant cette année qui vient de commencer, ou qui a déjà bien commencé, de vous encourager les uns les autres afin de pouvoir vous affermir et grandir dans la communion avec Christ. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour cet exemple de Barnabas, cet homme qui encourageait et qui avait l'habitude d'encourager les uns les autres, ceux qui venaient à lui, ceux qu'il rencontrait. Seigneur, c'est vrai que c'est un caractère que tu aimes voir dans tes enfants. C'est un trait de personnalité que tu désires que nous puissions développer chaque jour. Et je te prie pour chacun de nous, afin que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous puissions avoir cet esprit, cette attitude d'encourager l'autre, d'encourager ceux qui nous entourent, à l'église, dans la famille, au travail, ceux que nous rencontrons, nos amis, afin que nous puissions dire, Seigneur, que oui, c'est vrai, que nous t'aimons, c'est vrai que tu es bien présent dans nos vies. Béni sois-tu, loué sois-tu. Je te remets encore cette église de Darnay. Je te prie, Seigneur, de bénir cette église et qu'elle soit encouragée tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.